Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque aux fondations même de ce qu'on considère comme vrai, et particulièrement dans le monde des mathématiques qui paraît si ordonné, n'est-ce pas? On va se pencher sur une analyse, oui, assez décapante, on peut le dire, proposée par Paul Jorion. Alors, notre source est son article « What makes a demonstration worthy of the name ?». L'idée, c'est vraiment de décortiquer sa vision des différentes façons d'établir une vérité, et surtout, sa critique de certaines pratiques en maths. Il va même jusqu'à remettre en cause la célèbre démonstration d'incomplétude de Gödel. Rien que ça. Jorion pose une question qui est fondamentale, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'une preuve est réellement probante? Il suggère que les maths sont peut-être moins pures, moins coupées du réel qu'on le croit. Et que même les plus grands logiciens pourraient s'inspirer du monde réel, peut-être sans même s'en rendre compte.
Oui, c'est une perspective assez provocatrice, effectivement. On cite souvent Gödel, vous savez, pour dire que la vérité, elle dépasse la preuve. Mais Jorion, il commence par un rappel historique, essentiel, je pense. Il nous dit, attention, cette idée, elle n'est pas nouvelle. C'est Aristote, il y a 25 siècles, qui a posé les bases. Il a distingué différentes sources de vérité. Et ça, ce n'est pas juste une anecdote pour lui. Non, c'est vraiment le socle de toute son argumentation.
Ah oui, donc dès l'Antiquité, on admettait que la logique pure, la déduction, c'était pas le seul chemin vers le vrai. C'est important de le rappeler ça, parce qu'on a souvent cette image, un peu l'image d'Épinal, de la science qui repose que sur la preuve formelle.
Absolument. Aristote et Jorion s'appuient vraiment dessus. Il identifie trois voies distinctes. La première, c'est l'évidence perceptuelle, ce que nos sens nous apprennent, tout simplement. Mais attention, il ne s'agit pas de croire tout ce qu'on voit ou entend comme ça. Non, cette perception, elle doit être corroborée, vérifiée, pour séparer le fait de l'illusion. C'est la base empirique, quoi.
D'accord. L'observation vérifiée. Et la deuxième voie?
La deuxième, ce sont les définitions. Celles qui sont communément acceptées, c'est un accord sur le sens des mots, en fait. Quand on dit un fond, c'est le petit du cerf et de la biche, on établit une convention. Une fois qu'elle est acceptée, cette définition devient une vérité dans ce système de langage-là. Et en mathématiques, alors là, ce sont les axiomes qui jouent ce rôle. Ce sont des définitions fondamentales, des points de départ qu'on accepte sans preuve au sein d'une théorie donnée.
Logique est la troisième voie, j'imagine, la déduction?
Exactement. La troisième voie, c'est la déduction logique. C'est la vérité qu'on obtient comme conclusion d'un raisonnement valide, un syllogisme bien formé chez Aristote. Et ce raisonnement, il part de prémices qui sont déjà admises comme vraies, issues des deux premières voies, donc. En maths, ça correspond au théorème, qui découle logiquement des axiomes par une démonstration.
D'accord, le cadre est posé, c'est clair. Alors, comment Jorion applique cette grille de lecture spécifiquement en mathématiques modernes? Le parallèle est si direct que ça?
Ah oui, tout à fait. Il transpose ces trois voies très directement. L'évidence perceptuelle, ça devient la vérité issue de l'observation du monde physique, mais formulée en langage mathématique. C'est ce qu'il appelle, lui, la physique virtuelle. Utiliser les maths pour décrire, pour modéliser le réel qu'on observe.
Physique virtuelle, d'accord.
Ensuite, les définitions, ça correspond aux axiomes mathématiques, qui sont bien des conventions de langage formel, on est d'accord. Et enfin, la déduction logique, c'est la démonstration d'un théorème, la preuve, quoi.
Ok.
Mais, et c'est là où Jorion frappe fort, si je puis dire, c'est qu'il affirme que les mathématiciens, surtout depuis quelques siècles, auraient développé une sorte de biais. Ils privilégieraient beaucoup trop les axiomes et les théorèmes, les voies 2 et 3, en oubliant un peu, ou en tout cas en sous-estimant, l'importance fondatrice de la première voie, l'observation du réel, l'observation corroborée.
Mmh. Si je comprends bien l'implication, là, il suggère que les mathématiciens, parfois, ils s'épuisent à vouloir démontrer formellement des choses qui relèveraient peut-être plus simplement de l'observation.
C'est ça.
Une espèce de quête de rigueur qui irait trop loin.
C'est précisément ça. C'est son argument principal. Il illustre ça avec un exemple chien, le théorème de Goodstein. Ce théorème, il établit une propriété assez curieuse sur certaines séquences de nombres. Une propriété qu'on peut observer, en fait. Mais voilà, Goodstein a voulu la prouver, à partir d'axiomes. Et Jorion trouve ça un peu artificiel. D'autant plus que, et ça c'est un point technique, mais pour lui c'est révélateur, Ce théorème, il est prouvable dans un certain système axiomatique, l'arithmétique du second ordre, mais pas dans un autre, pourtant très similaire, l'arithmétique de Peano.
Ah oui, le fait que la probabilité dépende comme ça du système choisi. Ça renforcerait l'idée de Jorion qu'on est plus dans la construction formelle, dans le jeu de règles, que dans la découverte d'une vérité nécessaire sur les nombres eux-mêmes, qui eux sont observés. C'est ça l'idée.
Exactement. Pour Jorion, ça montre bien qu'on manipule les formalismes plutôt qu'on décrit une réalité mathématique intrinsèque, en tout cas pour ce type de propriété. Il pousse même le raisonnement un peu jusqu'à l'absurde. Il imagine vouloir prouver mathématiquement l'existence d'une coccinelle jaune à 7 points noirs en Amazonie.
Oui.
Bah, ça demanderait une chaîne de preuves quasi infinie. Prouver l'existence de l'Amazonie, de l'observateur lui-même, c'est juste impraticable et pour lui, c'est absurde. L'observation directe vérifiée, ça suffit amplement dans ce cas.
D'accord. Mais alors, pourquoi cette tendance? Cette espèce de pulsion de la preuve formelle que décrit Jorion, d'où ça viendrait et quels sont les risques selon lui?
Alors, selon Jorion, cette focalisation un peu excessive sur la preuve formelle peut conduire à deux types d'erreurs, ou d'illusions peut-être. Bon, parfois simplement à des démonstrations fausses, hein, qui contiennent des erreurs logiques, ça arrive. Mais de façon plus subtile, ça peut conduire à présenter comme des théorèmes, donc des vérités déduites des énoncés, qui sont en réalité d'une autre nature.
D'une autre nature, c'est-à-dire ?
Il pointe deux cas fréquents. D'abord, ce qu'il appelle des axiomes déguisés. La démonstration qu'on propose n'est en fait qu'un raisonnement circulaire, une petite sio principi. On croit avoir prouvé quelque chose de nouveau, mais en fait, la conclusion était déjà contenue, implicitement, dans les axiomes de départ. On n'a rien découvert, en fait. Juste reformuler le point de départ d'une autre manière.
D'accord. Le serpent qui se mord la queue. Et le deuxième cas ?
Le deuxième cas, et c'est peut-être plus troublant encore, ce sont des faits empiriques cachés dans les axiomes eux-mêmes. Les mathématiciens, guidés par leur intuition, une intuition qui est façonnée par leur expérience du monde réel, on y reviendra, ils choisiraient des axiomes qui, en fait, reflètent déjà certaines structures du monde physique. Et parfois, sans même s'en rendre compte, ils construiraient ce que Jorion appelle une physique virtuelle.
Ah, on y revient.
Exactement. Et du coup, les théorèmes qui découlent de ces axiomes chargés d'empirique, bah, ils semblent décrire le monde. Mais c'est parce que le monde était déjà encodé, en quelque sorte, dans les fondations même du système.
Cette idée de physique virtuelle, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est toujours inconscient ou ça peut être assumé parfois ?
Ah non, ce n'est pas toujours caché ou inconscient. Jorion rappelle d'ailleurs que l'intégration de la physique dans un cadre axiomatique mathématique, ça a été un projet explicite à certains moments. On pense par exemple à la sixième proposition de David Hilbert au début du XXe siècle. Son but, c'était justement d'axiomatiser des branches de la physique, la théorie des probabilités, la mécanique.
D'accord, là c'était clair.
Voilà, là l'intention est claire. On utilise l'outil axiomatique pour structurer notre connaissance du réel. La critique de Jorion, elle porte plus sur les cas où cette importation du réel se fait de manière non dite, voire inconsciente.
Et pour illustrer cette interaction, ce va-et-vient entre le besoin de décrire le réel et la construction mathématique, Jorion utilise l'exemple historique de la naissance du calcul infinitésimal, avec Newton et Leibniz. Qu'est-ce que cet exemple nous apprend selon lui ?
Bah, il soutient que Newton et Leibniz, ils n'ont pas créé le calcul différentiel et intégral dans une sorte de vide logique pure, quoi. Leur objectif premier, c'était de décrire et de prédire le mouvement des planètes, tel qu'on l'observait.
Oui.
Ils auraient donc ajusté leur nouvelle méthode mathématique, les dérivées, les intégrales, tout ça, pour que ça colle au plus près de ces observations physiques. La priorité, selon cette lecture, c'était vraiment l'adéquation au réel, quitte à prendre quelques libertés avec la rigueur formelle absolue. Enfin, au début en tout cas.
D'accord. La physique d'abord, la rigueur mathématique ensuite, en quelque sorte.
C'est un peu ça l'idée. Et Jorion n'est pas le premier à le remarquer d'ailleurs. Il rappelle la critique féroce de l'évêque George Berkeley à l'époque. Berkeley y dénonçait l'usage des quantités infinitésimales comme des fantômes de quantités disparues. Et il accusait les mathématiciens de pratiquer une sorte de compensation d'erreurs. Mais plus profondément, Berkeley leur reprochait une inversion de la méthode scientifique, telle qu'Aristote la concevait.
Une inversion de méthode 1 ? C'est-à-dire, en quoi ?
Eh bien, Berkeley accusait Newton et ses successeurs de pratiquer l'induction plutôt que la déduction. En gros, ils observaient des phénomènes, mettons le mouvement des planètes. Ils voulaient obtenir certaines conclusions, des formules qui décrivent ces mouvements. Et ensuite, ils construisaient, ou peut-être même bricolaient, les principes, les axiomes, les règles du calcul pour arriver à ces conclusions qu'ils désiraient.
Ah, je vois. On part de la fin, en quelque sorte.
Voilà. Pour Berkeley, ça, c'était une logique dialectique. C'est bon pour convaincre, pour argumenter, comme un avocat peut-être. Mais ce n'était pas la logique analytique de la science, qui, elle, doit partir de principes premiers évidents ou définis et déduire rigoureusement les conséquences.
Cette idée que les mathématiciens pourraient bricoler leurs principes ou importer en douce des éléments du réel pour arriver à leur fin, ça nous mène tout droit à l'attaque la plus spectaculaire de Jorion, je crois, sa critique du théorème d'incomplétude de Gödel. Là, c'est quand même un monument qui est visé.
Oui, absolument. Et Jorion, il va pas par quatre chemins, c'est le moins qu'on puisse dire. Il accuse carrément Gödel de tricher à un moment clé de sa preuve. Le cœur de l'argument de Jorion, c'est que Gödel, face au paradoxe qu'il a lui-même construit, vous savez, la fameuse proposition G qui dit en substance « je suis improuvable », eh bien face à ça, Gödel sortirait du cadre strictement formel pour affirmer que cette proposition G est vraie, bien qu'improuvable dans le système. Gödel ferait appel, selon Jorion, à une source de vérité externe. Une source qui n'est ni un axiome du système, ni une déduction logique à l'intérieur du système.
Et cette source, ce serait quoi alors ?
Ce serait l'évidence empirique, l'intuition du réel. En somme, Gödel importerait clandestinement la physique dans sa démonstration mathématique.
Attendez, tricher, c'est un mot très très fort quand on parle de Gödel. Sur quoi Jorion base cette accusation, précisément ? Quels sont les points de la démo qu'il critique ?
Alors, il soulève principalement deux problèmes. Le premier, ça concerne la nature des arguments logiques que Gödel emploie à ce moment crucial. Jorion estime que Gödel utilise des arguments qui relèvent plus de la logique dialectique, voire rhétorique d'Aristote, que de la stricte logique analytique qui serait requise pour une démonstration scientifique vraiment irréfutable. Par exemple, l'utilisation de la réduction à l'absurde dans ce contexte précis, ou plus généralement, le fait d'accepter la vérité de la proposition G, « je suis improuvable », juste sur la base de sa structure autoréférentielle.
Donc pour Jorion, si je résume sa pensée, dire « cette phrase affirme qu'elle est improuvable, si elle était fausse, elle serait prouvable, ce qui est contradictoire, donc elle doit être vraie ». Ça, ça relèverait plus de la conviction, de l'argumentation persuasive, que d'une déduction formelle pure.
C'est un peu ça l'idée, oui. Pour Jorion, accepter la vérité de G de cette manière, c'est un peu comme dire « crois-moi sur parole », quoi. Une proposition mathématique, dans un cadre strict, elle doit être soit un axiome, soit la conclusion d'une chaîne déductive qui part des axiomes. Or, la proposition G, au moment où Gödel la déclare vraie, elle ne serait ni l'un ni l'autre.
D'accord. Et le second problème qu'il pointe ?
Le second problème qui découle, en fait, du premier, c'est une confusion, selon Jorion, entre mathématiques et physique. Si la proposition G est déclarée vraie, mais qu'elle n'est ni un axiome ni prouvée mathématiquement, d'où est-ce qu'elle tire sa vérité ? Si on revient aux trois sources d'Aristote, si ce n'est pas une définition, un axiome, ou une déduction, un théorème, ben il ne reste que l'évidence perceptuelle corroborée, la première voie. Mais si la vérité de G vient de là, de l'observation ou de l'intuition du réel, ça signifie que G, d'une manière ou d'une autre, elle réfère au monde empirique. Et donc, Gödel aurait utilisé une intuition basée sur le réel, sur la physique, pour conclure à la vérité d'une proposition qui se prétendait purement mathématique.
C'est une remise en cause radicale, quand même. Comment on peut expliquer qu'un logicien aussi rigoureux que Gödel ait pu commettre une telle confusion, si on suit l'analyse de Jorion?
Jorion propose une explication. C'est le platonisme de Gödel. Gödel était profondément convaincu que les objets mathématiques existent réellement, dans un monde intelligible, indépendant de nous, et que les mathématiques, au fond, décrivent la structure fondamentale de la réalité.
Ah oui, la vision platonicienne classique des maths.
Exactement. Et pour un platonicien convaincu, eh bien, la distinction entre le monde des idées mathématiques et le monde physique, elle peut devenir assez floue. Jorian cite d'ailleurs ironiquement Bertrand Russell qui disait que Gödel croyait à un non éternel qui serait stocké quelque part au paradis des logiciens. Il y a aussi cette analogie des gâteaux au chocolat de Castier et de Paoli,
oui,
où les mathématiciens cherchent des recettes, les preuves, pour des gâteaux, les vérités, qui existent déjà dans un univers platonique des gâteaux. Ça illustre bien cette vision. Si le monde est fondamentalement mathématique, alors importer une intuition physique, ce n'est plus vraiment une faute logique, c'est juste reconnaître la nature mathématique du réel.
Fascinant de voir comment une conviction philosophique aussi profonde pourrait, selon cette analyse, influencer le cours même d'une preuve logique. Bon, si Jorian critique cette importation de l'empirique, que préconise-t-il alors? Elle devrait ressembler à quoi une démonstration mathématique digne de ce nom?
Sa position est assez claire là-dessus. Une démonstration mathématique, pour être digne de ce nom, doit rester strictement confinée au domaine formel. Elle opère sur des symboles, selon des règles définies, les axiomes et les règles d'inférence. Point. Elle ne doit pas faire appel, même implicitement, à des arguments ou des évidences qui seraient tirées de l'observation du monde physique. La frontière doit être étanche.
Et pourquoi cette étanchéité est si cruciale pour lui?
Parce que sinon, le concept même de modèle mathématique de la réalité perd son sens, selon lui. Si le modèle intègre déjà des bribes de la réalité qu'il est censé expliquer, comment savoir ce qui relève de la puissance explicative du modèle lui-même et ce qui est juste une description importée du phénomène? On ne pourrait plus vraiment distinguer le modèle de la chose modélisée, ça brouille tout.
Mais alors, quid de l'intuition? Tant de mathématiciens, on pense à Poincaré, à Turing, ont souligné son importance cruciale dans la découverte. Jorian la rejette complètement.
Non, il ne la rejette pas, mais il la resitue, il lui donne une autre origine. Pour lui, l'intuition mathématique, ce n'est pas une faculté mystérieuse tombée d'un ciel platonicien. Pas du tout. Elle est le produit de notre longue histoire évolutive et de notre expérience constante en tant qu'êtres physiques qui interagissent avec un monde structuré. Notre cerveau a évolué pour reconnaître des motifs, des régularités dans notre environnement. C'est une question de survie, à la base. L'intuition mathématique serait donc, fondamentalement, une intuition physique intériorisée.
Donc, quand les mathématiciens suivent leur intuition, même pour créer des concepts qui ont l'air très abstraits, il serait en fait, selon Jorian, en train de faire de la physique virtuelle, peut-être sans le savoir. Les axiomes eux-mêmes pourraient être choisis parce qu'ils sonnent justes, parce qu'ils correspondent à notre expérience implicite du monde.
C'est exactement ça. Cette physique virtuelle, intégrée dès le départ dans les axiomes, parfois de manière cachée, comme on disait, elle produirait alors logiquement des théorèmes qui sont cohérents avec elle, et la structure mathématique apparaît alors remarquablement adaptée pour décrire le monde. Mais ce serait parce qu'elle a été construite dès le départ en écho à ce monde. Ce n'est plus une coïncidence magique, ce n'est plus de la mathématique purement formelle au sens d'un jeu de symboles arbitraires, c'est une formalisation de notre intuition du réel.
Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, l'argument de Jorian qui se dégage de cet article, il nous invite, en gros, en s'appuyant sur Aristote, à ne pas réduire la vérité à la seule preuve déductive. C'est ça.
Ouais.
L'observation empirique, vérifiée, elle est fondamentale. Il soutient que les maths s'en inspirent profondément, hein, cette fameuse physique virtuelle, et que la recherche de preuves formelles pour des choses évidentes par l'observation, ou l'importation masquée d'éléments empiriques, comme il le reproche à Gödel, sont des démarches qui posent problème, épistémologiquement. C'est bien ça.
Oui, c'est une très bonne synthèse du défi que lance Jorian. C'est tout à fait ça. Il appelle à une plus grande lucidité, en fait, sur la nature de l'activité mathématique. À reconnaître la part de l'empirique, la part de l'intuition façonnée par le réel, et surtout à maintenir une distinction claire entre le registre formel des mathématiques et le registre empirique de la physique. Il ne s'agit pas du tout de dévaloriser les mathématiques, attention, mais plutôt de mieux comprendre leur fondement réel et leur lien avec le monde qu'elles cherchent si souvent à décrire. Vouloir prouver formellement ce qui relève de l'évidence sensible ou brouiller les pistes entre preuve et observation, ce serait finalement contre-productif pour la clarté de la connaissance elle-même.
Et voilà qui nous laisse avec une question pour poursuivre la réflexion peut-être. Si Jorian a raison, si une part significative des mathématiques est une sorte de physique virtuelle, issue de notre interaction profonde avec le monde, est-ce que ça change notre regard sur la fameuse déraisonnable efficacité des mathématiques pour décrire l'univers? Vous savez l'expression de Wigner. Est-ce que ce ne serait pas finalement moins un miracle ou une coïncidence heureuse qu'une conséquence assez logique du fait que les mathématiques sont peut-être depuis toujours tissées avec les fils de notre expérience du réel? Une question à méditer.